à toutes et à tous et bienvenue dans La Lorgnette. Cette semaine, La Lorgnette se tourne elle aussi vers les rendez-vous de l'histoire en vous proposant la captation d'une table ronde enregistrée ce mardi à la Cité du Numérique et qui revient sur 30 ans de numérique à la française. Avec trois spécialistes, nous ouvrons les archives des succès et échecs de l'informatique français dans la deuxième moitié du XXe siècle et même un peu au-delà. Cette table ronde était organisée par l'association Loire-et-Cher Tech. Bonne écoute!
Bonjour, Pierre Mounier-Cune, je suis historien de métier, je suis un littéraire du grec et du latin et je m'intéresse aux sciences et aux machines. Je suis devenu un spécialiste de l'histoire de l'informatique et des sciences et des techniques en général que j'enseigne à l'école centrale Supélec.
Bonsoir à toutes et à tous, je suis Benjamin Thierry, je suis maître de conférence à Sorbonne Université. Alors comme Pierre, je suis un pur littéraire de formation. J'ai fait de l'histoire numérique et de l'informatique totalement par hasard pendant mon cursus et une grande passion est née de cette rencontre un peu étrange et impromptue. Moi, je suis plutôt spécialiste de la socialisation de la technique, c'est-à-dire je m'intéresse à la manière dont les objets sortent du laboratoire et commencent ensuite à se diffuser dans la société, comment on les utilise.
Bonjour à tous, Vincent Marty. Alors moi, je suis pas du tout de la branche de l'enseignement. Je suis d'ailleurs pas du tout un littéraire. Je suis un ingénieur de formation en système d'information. Je représente plutôt ici le côté entrepreneurial de l'univers vidéoludique en particulier. J'ai fait toute ma carrière en tant qu'entrepreneur ou dans des grands groupes du jeu vidéo. Je suis un passionné de cette technologie, on va dire, et de cet usage. Et aujourd'hui, j'ai cofondé, il y a ça 4 ans, dans la région, le réseau Pixel Player, qui représente une centaine d'acteurs du divertissement digital, donc qui, autour du jeu vidéo et de ses technologies et de ses usages, rassemble des organismes de formation, des associations, des entreprises, des acteurs professionnels. Et on développe cette activité sur l'ensemble de la région Centre-Val de Loire, avec notamment comme mission de voir comment le jeu vidéo et ses technologies peuvent venir au service d'autres industries, parce qu'on ne le sait pas, on le sait souvent pas, mais d'autres industries s'inspirent beaucoup de ce que des travaux qui sont faits dans le jeu vidéo. Donc aujourd'hui, on travaille sur l'automobile, l'architecture, le patrimoine, la valorisation du patrimoine qui est riche dans notre région.
Je vais commencer un peu par être taquin. On s'est rendu compte avec le recul de l'histoire que les 30 Glorieuses ne l'avaient pas été tant que ça. Donc cette conférence, cette table ronde ayant été intitulée « Les 30 Glorieuses du numérique français », est-ce que ces 30 Glorieuses l'ont vraiment été? C'est ça ma première question.
Je dirais que ça a mal commencé.
Ouais.
Si on se situe dans les 10-15 années d'après-guerre, la France est le seul de tous les pays industrialisés où la recherche publique ratait la construction d'ordinateurs. Tout ailleurs, c'est dans les laboratoires universitaires ou plus largement publics que les premiers ordinateurs ont été construits et ensuite les technologies ont été transférées à l'industrie. En France, les industriels ont dû se débrouiller sans apport de recherche, sans apport académique. Les industriels ont dû assumer tous les risques inhérents à l'exploration et au développement d'une technologie radicalement nouvelle, avec les problèmes économiques que ça peut imaginer. Mais ils y sont parvenus. Non seulement ils y sont parvenus, mais à la fin des années 1950, en avril 1959, le magazine américain Fortune fait tout un numéro sur le miracle français, sur le redressement français, 15 ans après la libération, et cite parmi les réalisations emblématiques de ce redressement français les premières centrales nucléaires entrées en fonctionnement, l'avion à réaction Caravelle, copié aux États-Unis, ça c'est C9, et le gros ordinateur Gamma 60 de Bull. La France à cette époque est l'un des rares pays qui ait une véritable panoplie de constructeurs d'ordinateurs. Ça a poussé comme des champignons. Il y a eu un baby boom de constructeurs de calculateurs électroniques dans les 10 années qui ont suivi la guerre, C'est que là, en France, on voit des constructeurs qui ont des startups, d'ingénieurs savants qui veulent faire des ordinateurs, des entreprises de mécanographie, notamment Bull, qui à la suite d'IBM migrent progressivement des machines classiques à cartes perforées vers les ordinateurs électroniques. Et puis, troisième catégorie d'acteurs, des grands groupes électroniques qui se diversifient dans la construction de calculateurs électroniques, généralement pour répondre à des appels d'offres de l'État. Ce succès va être pris de flanc vers 1960 par une concurrence américaine déchaînée, profite mieux que personne de l'ouverture du marché commun et des possibilités accumulées aux États-Unis en termes d'investissement et d'avances technologiques.
Est-ce que ça a été une période d'euphorie, d'émulation, de progrès, j'emploie des grands mots, peut-être un espèce de siècle des lumières informatiques
Du point de vue secto-économique, le quatrième plan prévoit une croissance de 11% par an. Et il y a évidemment une sensation de participer à une révolution. Et il faut que la France se mette à la page. Il faut que la France modernise aussi de ce point de vue si elle ne veut pas être complètement larguée face à ce qu'on commence à décrire comme un défi américain.
Benjamin, vous vouliez
Alors, on a
réagir?
décidé de ne pas être d'accord parce que c'est quand même beaucoup plus intéressant de nuancer. On a là un modèle qui est très bien décrit par Pierre, qui est extraordinairement fragile, notamment sur l'incapacité de la puissance publique à mettre les fonds qu'il faut pour assurer, du côté notamment universitaire et de la recherche, quelque chose qui soit seulement comparable. Et aurait-il pu l'être à ce que font les États-Unis? IBM va venir massacrer une partie du marché, des erreurs stratégiques vont être faites du côté de Bull. Pierre est capable mieux que moi d'en parler, mais c'est un modèle qui est d'une extraordinaire fragilité et qui bat en brèche une autre idée reçue, là qui n'est pas du côté français, qui est plutôt du côté américain, qui est la place de l'argent public que les Américains ont mis sur la table pour dynamiser la recherche en informatique. IBM arrive avec 4-5 ans d'avance, ça dépend comment on le calcule. Parce que l'entreprise a été associée à des projets de recherche financés par le complexe militaro-industriel. Et SAGE, Semi-Automatic Ground Environment, qui est le premier système de surveillance semi-automatisé de l'espace aérien américain. Et donc, on a des acteurs qui ont une assise et une avance technologique qui va être très compliquée de remettre en question. La puissance publique va en prendre conscience. Et là, on entre dans les années 60 avec une tentative de réarmement. Le plan calcul en France, qui est directement issu de la volonté gaulienne, après le traumatisme Bull dont Pierre va nous parler, j'imagine, de remettre en place une industrie et un complexe universitaro-industriel en France, avec la création d'une institution qui est toujours aujourd'hui une institution de la recherche très importante en France, qui est l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique. Mais on a pris du retard. Et on n'a pas les moyens que les Américains peuvent continuer à déployer. Et on peut avoir le sentiment que ce siècle des Lumières, parfois, il n'a existé que dans la tête de ceux qui ont participé. Parce que très rapidement, on est rattrapé par des logiques de domination qui nous remettent à la place qui est la nôtre, c'est-à-dire une puissance qui est secondaire par rapport.
L'ambition du plan calcul, c'était quoi?
Rattraper le retard.
Ouais.
C'était avant tout une réaction à l'affaire Bull. J'ai rattrapé le retard en étant bien conscient qu'un certain nombre de nos chers collègues historiens n'aiment pas qu'on parle en termes de retard et d'avance. On a l'affaire Bull, c'est-à-dire le passage sous contrôle américain, sous contrôle de General Electric, de la compagnie des machines Bull, qui était le principal constructeur européen de machines à cartes perforées et d'ordinateurs. Mais au début des années 60, on prend conscience du retard français et européen dans le domaine de l'électronique. Et le domaine de l'électronique s'identifie de plus en plus dans ses esprits éclairés au système nerveux des nations. Une nation qui ne maîtrise pas la construction d'appareils électroniques, d'ordinateurs, de radars, de capteurs de toutes sortes, pas forcément vers le sous-développement, vers la dépendance, la vassalisation envers les États-Unis. Les États-Unis eux-mêmes mènent une politique dans ce sens. Les technocrates, les ingénieurs des grands corps, essayent de trouver une solution française à ce problème, en faisant appel à des grands groupes, Alcatel, Thales, une banque comme Paribas. La solution française aboutit en 1966 à politique gouvernementale pour remuscler l'informatique française en calcul, qui n'est pas une politique nationaliste, une politique européenne décidée par les gaullistes. Le but est de reconstituer une entreprise française à partir de petits constructeurs d'ordinateurs, constituer une entreprise en fusionnant ses PME, entreprise qui devra être une brique dans une construction européenne pour faire face aux Américains. Il ne s'agit pas forcément d'être en guerre avec les Américains, mais d'avoir une capacité d'autonomie et donc une capacité de négociation.
Donc ce plan d'investissement, avec toutes les limites que Benjamin a évoquées, il va quand même permettre à la R&D, comme on dit, à la recherche et développement, de mettre en place des outils qui vont nous permettre de maintenir une vision du numérique et de l'informatique qui soit correcte. Comment, pour rentrer un peu dans l'usage des Français, comment ça va se développer? Comment ces outils-là, comment cette politique-là va infuser dans les foyers français?
Les foyers français, il ne faut pas aller trop vite quand même. Hein, parce que là, on est à la fin des années 60, au début des années 70. Alors, certes, on n'est plus à faire un peu de tourisme chronologique. On n'est plus à l'ère des divas de l'informatique 40 et 50, qui sont dans des caves, qu'on ne peut approcher qu'en planche, qui sont fragiles pour certaines d'entre elles. On est déjà entré dans une ère où les machines ont pénétré l'entreprise, mais demande un personnel spécialisé. Pour être utilisé.
Toujours les chercheurs et...
C'est des personnels qui ont soit évolué depuis la mécanographie, qui a été la première famille technologique à pénétrer l'entreprise pour donner des moyens de calcul ou de traitement de l'information, pas que du calcul, qui mettent au service d'une assurance, d'une banque, un ordinateur qui permet de faire d'automatiser les fiches de paye. Mais l'ordinateur n'est pas présent dans la vue de tous les jours. Bien sûr. Travailleurs lambda. Par contre, c'est à ce moment-là qu'on commence à voir naître les grandes utopies de l'informatisation du quotidien, où on envisage que ces machines, si elles continuent la voie qu'elles ont à suivre, miniaturisation et augmentation de la puissance, on pourrait les trouver à peu près partout. Et dans le cadre, par exemple, de ce centre de recherche en informatique et automatique, c'est là où on va voir naître les premiers projets de bureautique, où l'ordinateur va coloniser un nouvel espace. Le bureau de la secrétaire, puis ensuite le bureau du cadre. Et là, on est à des années 70-80. On a, encore une fois, pour essayer de faire rempart aux technologies américaines qui arrivent, la volonté de créer un ordinateur qui serait alors franco-français dans sa capacité à assembler des éléments qui ne sont pas directement français, mais voilà, qui aurait une vision française de l'organisation. Donc, c'est un séquençage du temps. Faut garder en tête, l'informatique est quelque chose qui est encore très obscur pour le grand public. On entend parler d'ordinateur, mais on ne touche pas du doigt. C'est la micro-informatique et en France, cette espèce de bizarrerie qu'est le Minitel, chronologiquement, va vraiment mettre dans les mains des hommes et des femmes un écran et un clavier pour s'apparenter à un ordinateur.
Il arrive quand le Minitel?
Minitel, c'est un projet qui est conçu à l'origine pour rentabiliser l'extraordinaire effort d'équipement que les télécoms font pour moderniser le réseau téléphonique. Le réseau téléphonique en France est une calamité des années 70. Il y a un adage populaire qui dit que la moitié des Français attend d'avoir le téléphone, l'autre attend la tonalité, parce que soit on ne l'a pas, soit ça ne marche pas. Il y a une tentative qui est portée notamment par Valéry Giscard d'Estaing de modernisation le réseau téléphonique, il en fait une priorité nationale dans un discours qui est resté célèbre, avec un plan d'équipement gigantesque, le plan Delta LP, où on va des millions de lignes téléphoniques et accès au téléphone. La difficulté, c'est qu'avec ce que ça coûte, appeler son voisin, sa voisine, Tante Jacqueline en province éventuellement, on ne rentabilisera pas ce qu'a coûté la mise en place. Et naît alors dans l'esprit des ingénieurs des télécoms l'idée que ce réseau, il pourrait aussi servir à accéder à des services. Interactif à l'époque. Et donc l'idée du Minitel arrive en quelque sorte à ce moment-là. Il est conçu dans le cadre de la collaboration de cette extraordinairement puissante administration des télécoms de l'époque. Le directeur général des télécoms, dans les années 70, c'est le deuxième personnage de l'État, vu son importance. Il est assis sur un tas d'or, il est extrêmement écouté. La recherche française et les industriels qui vont mettre en place ce terminal. Il y a comme particularité, mais on y reviendra peut-être, d'être donné gratuitement à ces utilisateurs. utilisateurs.
J'allais y revenir.
Voilà, ce qui est quand même un pari industriel pour l'époque qui est incroyable, et l'ouverture nationale du réseau est 1980.
On estime, en faisant les recherches, j'ai vu que presque 7 millions de foyers français avaient été équipés en Minitel, ce qui correspond au milieu des années 70 et 80 à...
Alors là, on est dans les années 90.
Dans les années 90, ouais, pardon.
Maximum de l'équipe.
C'est énorme. Il y a une volonté publique quand même que cet appareil soit à disposition.
Oui, c'est sans précédent. C'est sans précédent. Il y a une phrase de Jacques Chirac qui est célèbre également, hein, qui dit « La boulangère d'Aubervilliers peut consulter son compte en banque alors qu'à New York, on ne peut pas ». Parce qu'on est à un moment où la micro-informatique n'a pas encore pénétré le grand public. Le grand génie du projet Minitel est d'avoir, dès le départ, conçu son utilisation pour un débutant ou une débutante, quelqu'un qui n'y connaît rien, qui n'a jamais eu un clavier et un écran. Et il va être extraordinairement facile. Si on se souvient comment on le manipule, il n'a pas de souris, un affichage qui est extraordinairement frustre, mais il permet de voir émerger 12 000, 13 000 services en France qui sont accessibles. Alors, il ne faut pas faire d'anachronisme et dire que tu étais déjà sur Minitel avant le web, mais on peut interroger son compte en banque, on peut aller sur 3615 Libé, regarder les infos, sur le 3615 politique, poser des questions en direct à un homme politique qui vient pendant les législatives de 93. Enfin, une foultitude d'usages qui sont incroyables.
Chercher les horaires des films dans le cinéma le plus proche de chez moi.
Voilà. Discuter éventuellement dans les messageries roses, qui est un peu l'image qu'il a laissée, parce que c'est extraordinairement rentable, mais surtout en étant utilisable out of the box. On va le chercher à son agence Télécom, on le branche, et il est à peu près utilisable. Parfois, je terminerai là-dessus, en allant un peu trop loin dans la tentative de simplicité, on en parlait avec Pierre devant les ordinateurs du premier étage, le premier clavier du Minitel est alphabétique, par exemple. Ce qui est très intéressant dans le form factor de l'objet, parce que ça montrait cette volonté d'être accessible à tout le monde, les ingénieurs et les ergonomes. Dit quelqu'un qui n'a jamais eu un clavier entre les mains, il sera plus simple de lui mettre un clavier dont les touches sont dans l'ordre ABC, DEF, plutôt que AZERTY, la norme française. Ce qui était une erreur, parce que quelqu'un qui n'a jamais touché un clavier, il met autant de temps à trouver les touches alphabétiques en AZERTY, et quelqu'un qui a déjà utilisé un clavier, par exemple une machine à écrire, va devoir tout réapprendre. Et c'est pour ça que très vite, le clavier va repasser à l'AZERTY, mais il y a cette volonté d'être accessible.
On comprend hein, que le Minitel, ça opère une forme de bascule dans les usages. J'ai retrouvé donc pareil en travaillant cette rencontre un certain Bruno Lussato, spécialiste des systèmes informatiques, qui a sorti une grande phrase qui est a priori restée célèbre. On nous dit que le monde entier nous envie de Minitel. Je ne sais pas s'il nous l'envie, mais je peux vous dire en tout cas une chose avec certitude, c'est qu'il ne nous l'achète pas.
C'est partiellement vrai. Bruno Lussato a partiellement
Pourquoi
raison. Parce que le Minitel, dans son déploiement, en prenant en compte ce pari industriel et ce pari de comptabilité publique, qui est de dire on va produire des millions de terminaux et on va les distribuer, puis on va les rentabiliser avec des services, n'a pas voulu être tenté ailleurs. Les autres systèmes télématiques, c'est la famille technologique qui permet d'avoir accès à ces services, en Grande-Bretagne, en Allemagne, n'ont pas fait ce pari-là. Et leur télématique n'a pas décollé. Quand il y a très peu de services ou que le coût est très cher, ça n'intéresse pas les utilisateurs. Le Minitel est un modèle qui est très franco-français par cette espèce de pari. La DGT a un peu forcé la main aux gouvernements successifs pour réussir à implanter une masse critique qui permet un retour sur investissement. C'est risqué, parce que si ça ne marche pas, vous avez plusieurs millions de terminaux sur les bras, vous ne savez pas quoi en faire.
Dans les usages, on a parlé évidemment du Minitel, mais je crois qu'avant ou en même temps, vous allez nous le dire, le jeu vidéo est arrivé.
Mm-hmm. Le jeu vidéo, il a besoin de l'électronique et de l'informatique pour émerger. Mais paradoxalement, on va dire à la fin des années 50, la première expérience vidéoludique qu'on voit apparaître, c'est sur un oscillateur. C'est un chercheur américain qui fait une sorte de pong, vous voyez le jeu de tennis, sur un oscillateur. Et en fait, c'est un travail de recherche en laboratoire pour montrer que l'usage d'un oscillateur, enfin des technologies associées à l'oscillateur, peut être en fait programmé. Et donc que la programmatique peut commencer à naître dans l'électronique et dans l'informatique. Mais c'est vraiment que fin des années 60. Que le jeu vidéo et que les expériences vidéoludiques naissent. Elles naissent pas en France, Parce que encore une fois, je pense qu'on l'a évoqué, on est un peu en
compris.
retard, en retard. Mais par contre, elle naît aux États-Unis et dans les laboratoires anglo-saxons. Par contre, dès la fin des années 70, on commence à exporter, importer. Voilà, l'ouverture du marché fait qu'on découvre des choses qui se passent de l'autre côté de l'Atlantique de manière un peu plus régulière. Et il y a notamment des magazines. Suite à la publication par Atari du jeu Pong, donc la vraie version du jeu Pong qu'on connaît au niveau fin des années 60, créer des clones de ce jeu-là et les mettre à disposition de groupes de hackers français. Parce qu'en fait, on est bien équipé en ingénieurs qui programment sur les machines, les premières machines informatiques, et donc les gens commencent à s'approprier cet objet-là. Et commence à y voir la possibilité de faire de l'interaction, de l'interactivité, du divertissement. Et c'est finalement assez naturel quand on regarde l'état du divertissement en France, parce qu'on a une double culture qui est finalement complètement la genèse du jeu vidéo. Une culture sociale très forte, on va dans les bars, dans les cafés, pour jouer ensemble au flipper, au baby-foot. Et finalement, tout ça, c'est les ancêtres du jeu vidéo, avec l'automatisation du divertissement. Et puis, on a une haute technologie qui est quand même bien présente, même si on a raté un peu le virage de la création des ordinateurs et de la fabrication des ordinateurs. On sait les manipuler, on a des chercheurs, on a des ingénieurs qui sont bons, qui sont en nombre. Et donc, l'appropriation de ces outils-là vidéoludiques, elle arrive en fin des années 60, début des années 70. Et il faudra attendre un petit peu plus longtemps pour qu'on voit émerger des vraies pépites françaises, franco-françaises. Mais même Atari, qui est le numéro un absolu américain dans les années début des années 70, implante très rapidement une filière en France, dans le Doubs. Ils construisent des bornes d'arcade, comme celle-ci, voilà, qu'ils posent dans les cafés ou dans certains lieux de passage public. Et la première borne d'arcade qu'ils ont faite, qui a été déposée aux États-Unis à San Francisco, elle est tombée en panne. Et elle n'est pas tombée en panne parce qu'ils s'étaient trompés dans la programmation, simplement parce que les pièces étaient coincées. Il y avait trop de pièces dans la machine, et donc ça avait bloqué le fonctionnement, le bon fonctionnement de la borne d'arcade, et donc c'est comme ça qu'est née la légende autour d'Atari et des bornes d'arcade qui donnent naissance aux jeux vidéo tels qu'on le connaît aujourd'hui.
On voit à travers l'arrivée du jeu vidéo et ce que vous nous avez raconté, donc qu'il y a un manque de d'investissement, que ça a été assez criant, mais pas un manque de personnes, d'ingénieurs. Voilà, vous l'avez dit aussi, Vincent. Il y a plein de personnes qui sont tout à fait dédiées à faire avancer la technologie française, etc. Donc, ça me permet de glisser vers le sujet de l'enseignement et de la formation. Pourquoi il a un bout manqué dans les investissements publics, des grandes volontés de prendre ce sujet-là à bras le corps, mais qu'on voit que, et on y reviendra avec le jeu vidéo, qu'elle a créé beaucoup voilà, d'ingénieurs, de créateurs, de développeurs, et que la France est quand même assez renommée à l'international pour ces sociétés de jeux vidéo, d'informatique, de numérique.
Beaucoup, mais jamais assez.
Ouais.
Je disais tout à l'heure que la recherche publique française a raté la construction des premiers ordinateurs, mais ensuite, dès la fin des années 50, les entrepreneurs de sciences se sont lancés dans l'enseignement de la programmation comme extension, diversification à partir des mathématiques appliquées. Donc, mariage entre mathématiques, logique et linguistique, c'est elle aussi une discipline en pleine ébullition. Et on a, à partir du début des années 60, un bouillon de culture extraordinaire, très enthousiasmant là aussi, des gens qui font des thèses sur des sujets complètement abracadabrants. Il y a une demande gigantesque socio-économique pour des programmeurs que l'enseignement supérieur n'arrive jamais à satisfaire. C'est d'ailleurs que beaucoup d'entreprises investissent, créant leur propre école, des banques, seulement IBM, Bull et autres ont leur école de programmation, mais des banques, des assureurs ont leur école interne pour apprendre à programmer, etc.
Est-ce que ça engendre, vous vouliez rajouter quelque chose, Benjamin ?
Oui, parce que Pierre parle très bien de l'enseignement supérieur, mais la problématique va se poser dans l'enseignement primaire et secondaire également. Mmh. Et là-haut, au balcon, on a quelques Thomson qui ont été les grandes machines d'informatique pour tous en 1985, hein, qui est le premier grand effort qui a été tenté d'initier à la programmation en basique à l'époque les élèves français, avec en fait le corollaire à un niveau d'enseignement précoce de cette angoisse du manque d'informaticiens, la mise en place d'une problématique qui est encore actuelle et qui est très importante, qui consiste à savoir si pour créer un élève qui est programmeur, c'est-à-dire qui va être capable de comprendre des logiques de l'intérieur de l'objet, ou un élève qui est utilisateur. On commence à avoir des logiciels et il y a une tension qui se met en place. On va retrouver également entre les défenseurs du logiciel, les défenseurs de Microsoft, et cette idée que, comme on est à la traîne, il faut absolument intégrer toutes les innovations provenant d'outre-Atlantique dans nos enseignements, et que si on ne le fait pas à de dimension industrielle, c'est qu'on manque le col.
Est-ce que ce décalage entre l'offre et la demande d'ingénieurs de formation a créé une fuite des cerveaux vers des pays qui avaient une politique d'investissement? Est-ce qu'on a perdu des ingénieurs français et de fait donc notre capacité à produire, à réfléchir, à inventer des usages, des outils français ou européens à minima?
Au début, pas tellement.
Ouais.
Parce qu'il y avait beaucoup d'emplois et d'emplois très intéressants, des ingénieurs, des scientifiques, des programmeurs, dans l'industrie française, dans les premières sociétés de services qui sont énormément développées dès les années 1900. Il n'y avait pas de fuite des cerveaux, mais il y avait des diplômés, polytechniciens et d'autres qui allaient compléter leur formation pendant un an, deux, par un master à Berkeley ou à Stanford ou à Harvard, mais qui revenaient. Et même le plan calcul a eu pour effet non seulement de retenir des spécialistes français, parce que, mais même d'attirer des Américains. Donc, il y a eu un brain drain en sens inverse. Le plan calcul, notamment le développement des premiers réseaux numériques comme CITAD, a attiré des chercheurs partout dans le monde. Ce que vous décrivez, ça se voit beaucoup plus à partir des années 1980.
Vous vouliez rajouter quelque chose sur cette émulation française, peut-être des personnes qui n'ont pas été suivies par.
Je pense qu'il y a deux faits, effectivement. Il y a d'abord un mal qui est en fait qu'on observe souvent, qui est très français, en tout cas peut-être même un peu européen, qui est le manque de passerelles évidentes et de travail évident entre la recherche et l'industrie. Et que ça a très bien marché à un moment donné. Mais aussi très rapidement, on va dire à la fin des années 70-80, on n'arrivait plus à transformer les travaux de recherche industrielle en entreprises fortes sur le territoire français, ce que font très bien les Américains, les Anglo-Saxons, d'une manière générale. Et c'est un constat que, enfin, en tout cas, moi, je continue à faire aujourd'hui. Je parlais de ce qu'on fait entre le jeu vidéo et le patrimoine. Quand on parle à des chercheurs du patrimoine, ils font des choses formidables dont personne n'a jamais entendu parler. Parce qu'il n'y a pas d'usage et il n'y a personne pour les accompagner dans la définition des usages de leurs travaux de recherche. Et je pense que ça a contribué à un moment donné à soit isoler des talents qui ont fait leurs choses dans leur coin sans passer par les travaux de recherche, ce qui peut être très bénéfique parce que parfois on va plus vite, on fait des choses un peu différemment, soit effectivement à faire en sorte que certains talents s'exportent parce que la transformation des usages se faisait plus rapidement ailleurs. Et c'est encore plus vrai, comme le disait Pierre, dans les années 80-90, dans le milieu du jeu vidéo, on a fait tout ce qu'il fallait pour que les gens aillent ailleurs. Voilà.
Sur le jeu vidéo, toujours, malgré tout, il y a quand même des grandes sociétés françaises. On va évidemment citer Ubisoft, oui. Vous y avez travaillé, qui est la tête de gondole hein, du jeu vidéo, de la réussite française dans le secteur vidéoludique. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, je rappelle les deux mastodontes, hein, pour moi en tout cas, qui sont Assassin's Creed et Rayman, hein, des best-sellers de jeux vidéo absolus. Il y en a d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Je cite que vraiment les deux plus connus. Est-ce que ça s'est joué à cette période, la création, par exemple, d'Ubisoft, pour parler d'un cas très concret, dans les années 80
Ubisoft a pris une position qui est intéressante, c'est qu'elle a commencé par ne pas développer de jeux vidéo. Son rôle, ça a été de prendre les jeux vidéo que faisaient les autres, tout dans le monde, et de les distribuer en France. Donc, elle a commencé en tant que distributeur, comme peut le faire un Leclerc ou un Auchan aujourd'hui dans la grande distribution. Ils ont fait la même chose pour... le jeu vidéo. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à Carantoir en Bretagne, où ils sont toujours installés, puisque c'est une entreprise familiale qui est toujours installée là-bas. Et petit à petit, ils ont appris du marché en distribuant les jeux des autres, avec une poigne de fer d'ailleurs dans les négociations qu'ils n'ont jamais perdues. Et c'est comme ça qu'ils sont rentrés ensuite dans la création. Et là où ils ont été très forts, c'est qu'ils ont réussi à capitaliser sur des talents existants pour les intégrer au sein de leur entreprise. Donc, ils n'ont pas fait le chemin qu'ont fait d'autres entreprises comme Infogrames, par exemple, qui a fait un peu de distribution, mais qui a surtout ensuite, avec Atari, fait du développement. Développement hardware, donc de machines, et du développement de software, donc de jeux. Donc ils ont eu un positionnement stratégique très intéressant, peut-être plus business que créatif. Et donc aujourd'hui, bon, ils ont la panoplie complète, c'est quasiment 20 000 personnes chez Ubisoft, principalement des développeurs, mais ce n'était pas le cas au départ. Par contre, il y a eu beaucoup d'autres entreprises dans les années 80 et 90, surtout sur la place de Paris, qui se sont créées, qui, eux, ont commencé vraiment comme des hackers, hein, ont commencé vraiment tout seuls, mais qui ont amené des choses vraiment nouvelles, notamment sur la narration. Alors, en France, on est très fort sur la narration, dans le cinéma, la littérature, et donc les expériences...
Notre grande tradition littéraire. Hein.
Voilà, notre grande tradition littéraire s'est traduite dans le jeu vidéo très rapidement dans les années 80. Et il y a des jeux qui sont vraiment devenus iconiques et qui ont placé la France sur la carte à cette époque-là. Et par la suite, plein d'autres choses qui se sont développées. Donc c'était intéressant. Et un des facteurs qui a vraiment fait en sorte que le jeu vidéo dans le monde et en France en particulier rentre dans les mœurs et devienne très rapidement plus fort en termes de chiffre d'affaires et d'industrie que le cinéma, c'est l'arrivée de la télévision dans les foyers, tout simplement, parce qu'on pense aux jeux à travers l'informatique et l'ordinateur, mais ce qui a vraiment permis à tout un chacun de s'essayer aux jeux vidéo, c'est la télévision, et donc ça c'est sur la télévision couleur, fin des années 70, qui a fait que ça soit vraiment très très présent sur le marché français.
L'arrivée des appareils domestiques, magnétoscopes, consoles individuelles.
Exactement. Bah, c'est la miniaturisation et l'accès à ces technologies-là.
Quel est l'héritage de ces 30 glorieuses du numérique français, pour reprendre le terme, même si on a mis des nuances. On parle évidemment de l'intelligence artificielle, mais il y a, j'imagine, pas que ça. Quel est l'héritage de cette période de la recherche et de l'industrie numérique française?
Il y a l'intelligence artificielle. Le premier livre au monde qui s'intitule L'intelligence artificielle est publié en français en 1967. À cette époque, il y a déjà des laboratoires qui travaillent là-dessus. Un héritage important du plan calcul, c'est l'expertise en matière de...
On y revient
de...
au plan calcul.
Ah, oui, parce qu'il a participé au développement des premiers réseaux numériques et c'était l'une de ses vocations. Mmh. Il y a l'un des objectifs à essayer de construire des systèmes d'ordinateurs en réseau. Ça, c'était dès le plan calcul de 1900. Savoir-faire répandu en matière de construction de machines qui font que non seulement le champion national C2I a fait des gros ordinateurs en 1966-1975, et qu'on trouve dans son environnement des fabricants de mini-ordinateurs, indépendants de l'État, eux, qui n'étaient pas directement dans le plan calcul, bénéficiaient de cette ambiance, de cette dynamique. L'invention du premier micro-ordinateur, le Micralen, premier micro-ordinateur du monde en 1973, l'invention de la carte à puce, à la fois chez Bull et dans une PME chez Roland Moreno en 1974-75, le développement des SS2I, donc l'énorme secteur du service informatique.
Même question.
Alors, quand je pète le micro avec Pierre, je décale la perspective. Trois choses dont on hérite. Enfin, la Sorbonne, donc, on prend partie. D'abord, les usages. Je vais y revenir. Ensuite, une position consolidée dans le groupe des seconds derrière
les États-Unis.
Une angoisse. Alors, les usages. Forcément, quand on est histoire du Minitel, on est très, très sensible au fait qu'on a connu en France peut-être une période d'éducation aux usages du numérique extrêmement précoce, dont on voit les conséquences bénéfiques au moment où le web arrive. Et là, c'est un autre mythe qu'il faut détruire. La télématique, sur le plan des usages, n'a pas freiné l'acclimatation du web dans la population. Au contraire.
Elle l'a encouragé.
Voilà. Les décideurs étaient un petit peu plus frileux parce qu'ils gagnaient de l'argent avec le Minitel. Le web ne permettait pas de gagner de l'argent quand on était producteur de sites. C'est le petit décalage de perspective. Donc
Mais ça nous a familiarisés.
Bien sûr. Et on le voit encore aujourd'hui.
En 2015, quand ça s'est vraiment démocratisé.
Tout à fait. On est une population en Europe qui est moins rétive dans ses usages que d'autres en Europe du Sud, par exemple, quand on regarde les indicateurs. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, je crois qu'on consolide une place dans ce groupe des seconds qui est marqué par une excellence de la recherche et des difficultés industrielles. Pierre les a rappelées. Puis le troisième leg, c'est probablement cette angoisse, et c'est la raison pour laquelle on parle de ça ce soir, dès qu'on a conscience d'être dans le groupe des suiveurs. Donc on a cette thématique du retard à l'esprit, peut-être comme les acteurs des années 60, encore extrêmement présente. Et on cherche, parfois en réussissant, parfois en se trompant, combler ce retard, à sortir de ce groupe des seconds, à parier ou pas sur les usages, mais voilà, on est derrière et il y a un problème.
Pardon, vous me demandiez quels héritages il reste du calcul.
Ouais.
L'un des principaux est un héritage mental, politique, l'obsession d'une souveraineté numérique, et la philosophie du calcul, et qu'on voit ressurgir à intervalles réguliers comme un monstre du Loch Ness numérique.
Pour terminer, bah, moi je dirais effectivement qu'on a la chance d'avoir laisser libre cours à la créativité de nos développeurs en France, et que finalement, nous, dans l'univers du jeu vidéo, qui est un univers hybride entre la culture, la création et la technologie, bah, on a réussi à faire de grandes choses avec des moyens peut-être un peu moins grands que nos voisins. Je pense que, comme on l'a dit, même des programmes comme Cyclade ont vraiment facilité l'entrée d'Internet, l'entrée dans l'ère d'Internet, aussi bien au niveau du développement de la technologie que des usages. Et puis finalement, on a quand même réussi à maintenir, même si on n'est pas dans le wagon de tête, des champions. On a Ubisoft en tête, mais on a eu Vivendi à une époque, on a vu Infogrames, Atari, qui est un grand nom, même si cette société a été créée aux États-Unis et maintenant une société française. Voilà, elle est sous pavillon français. Donc, ça montre bien qu'on a une éducation à ces usages vidéoludiques à travers le numérique qui est très forte. Et puis, bah, nos talents se sont très bien exportés. Ils commencent à revenir parce que finalement, tout n'est pas si rose ailleurs. Et ça, c'est très
surtout
bon.
Surtout aux États-Unis.
Aux États-Unis, et puis même au Canada. Enfin, le Canada était, et notamment la région de Montréal et de Québec, a été une terre d'accueil avec une politique économique extrêmement agressive envers le jeu vidéo et vidéoludique. Bon, bah, c'est moins le cas aujourd'hui. Et on se rend compte que finalement, la France, d'un point de vue politique, a toujours soutenu cette industrie-là, industrie culturelle, qui est englobée dans ce qu'on appelle les industries culturelles et créatives, des ICC. Et ça n'a jamais été un... Voilà, combien même il y a beaucoup d'éducation à faire sur l'usage du jeu vidéo d'un point de vue sociétal. D'un point de vue industriel, c'est toujours une industrie qui est très soutenue. Je veux dire que d'un point de vue purement des chiffres, ça représente plus que le cinéma et la musique combinés en France et dans le monde. Donc forcément, il ne faut pas le négliger. Voilà. Et donc, je rejoins après mes camarades sur le fait qu'on a souvent le sentiment de rater les virages. Ce n'est pas toujours le cas dans les faits, qu'il faut plutôt essayer de construire ça de manière stratégique avec les acteurs qui le font au quotidien, que ce soit chercheurs ou industriels.
Des erreurs, messieurs, à ne pas reproduire.
Moi, je suis assez embêté par le fait de produire des recommandations. Les choses sont quand même très, très compliquées. Enfin, je n'aimerais pas être en responsabilité. Mmh. Ça va très, très vite. Et forcément, il y a des choix qui vont impliquer qu'il y aura de la casse. Dans 10 ans, j'écrirai une série d'articles ou un livre voilà, sur les erreurs d'aujourd'hui.
Non, il faut être en responsabilité. Puis après, on passe dans l'industrie. Regarde Cédrico. Il a été 2 ans secrétaire d'État numérique et crois qu'il est au conseil d'administration de Mistral.
Ouais. Non, moi, je suis pas historien, donc j'ai pas d'analyse sur les faire et pas faire de ça. Moi, simplement, ce que je constate, c'est effectivement les investissements, on peut pas s'en passer. On aura beau toujours dire, on n'a pas d'argent, on a des idées, mais ça suffit pas. Mais l'autre chose que moi, je continue à pousser très très fort, c'est renforcer la collaboration entre recherche et industrie. Je pense que c'est de là que, en fait, on a 2 piliers forts qu'il faut nourrir en même temps. Si on les déséquilibre, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Donc, il faut continuer à créer ces ponts, à créer filières, ces programmes de collaboration entre recherche et industrie, parce que les start-upers, ils ont beau être brillantissimes, et on les met souvent très, très en avant quand ils ont des bonnes idées, il n'en reste pas moins que ces idées, elles naissent souvent des années auparavant dans les laboratoires de recherche. Ou en tout cas sous une forme peut-être différente mais ou embryonnaire, mais c'est souvent le cas. Et donc, voilà, moi, je nourris ça. L'autre composante que nous, on a dans le jeu vidéo, c'est l'aspect culturel. Donc là, la recherche marche très bien sur les aspects techniques, technologiques, et deep tech ou des nouveaux usages. Sur l'aspect créatif, il faut aussi être capable de s'exprimer. Donc voilà, il faut faire attention à la censure, il faut faire attention à toutes ces thématiques-là qui, quand on parle de création et de culture, peuvent vraiment venir saboter un petit peu les potentiels.
Le plan informatique pour tous, c'est l'exemple parfait d'un plan qui a été piloté par Laval, c'est-à-dire un objectif politique qui était notamment porté par Laurent Fabius, qui était de mettre des ordinateurs visibles dans les classes. En ayant finalement des difficultés à envisager ce qui était possible de faire avec ces ordinateurs, quels ordinateurs il faudrait mettre, comment ça pourrait se connecter avec un appui à l'industrie électronique française. Donc c'est un plan de malfagoté, le plan IPT, le plan informatique pour tous. C'est pas parce qu'il y a des moyens, alors on m'a dit qu'il fallait des moyens, il faut une vision stratégique aussi.
Il faut bien le dépenser.
Voilà, exactement. Mais les moyens, je pense qu'aujourd'hui on manque plus de moyens que de vision stratégique. On a des entrepreneurs qui ont des idées qui sont tout à fait intéressantes. Il faut qu'on les soutienne. Le plan IPT, c'est un plan qui a été pensé à l'envers. En fait, le but était d'avoir un effet d'affichage important. Alors, il y a des choses très bien qui sont sorties du plan informatique pour tous. Il y a toute une génération d'instituteurs qu'on appelle aujourd'hui les professeurs des écoles qui se sont formés, qui ont continué à promouvoir place de l'informatique dans les classes. C'est un moment où on a relancé également la recherche sur l'informatique et les disciplines scolaires. Donc, c'est pas un bilan qui est nul. Par contre, effectivement, par rapport à ce que ça a coûté, c'est un peu décevant.
Moi, je pense que Pierre, mais moi, sur le plan informatique pour tous, j'ai été confronté en première ligne, parce que je viens d'une famille d'instituteurs, et ils ont tous reçu ça en pleine tronche. On leur a dit un matin, voilà un ordinateur, débrouille-toi avec. Et je pense que c'est effectivement l'exemple typique d'un plan pensé complètement à l'envers. On pense par le résultat sans penser sur la méthode et sur l'objectif final qu'on veut atteindre. Et donc, on s'est retrouvé effectivement à acheter plein d'ordinateurs pour les mettre dans des classes sans savoir ce que les enfants allaient pouvoir en faire, sans former les gens qui étaient censés mettre les enfants devant et sans y associer les industriels et les ingénieurs pédagogiques pour en faire un véritable outil d'apprentissage et pas juste une boîte bien connectée et très jolie, quoi.
Juste une remarque, on le fait toujours, hein. Ouais. C'est parce qu'il se fait dans le Loir-et-Cher ou dans la région. Enfin, les décisions qui consistent à équiper des lycéens ou des collégiens avec des ordinateurs portables de mauvaise qualité qui seront jamais utilisés juste pour dire ces électeurs on l'a fait, c'est typiquement du gaspillage d'argent public.
Ça continue d'exister dans la région.
Alors, il faut ajouter que 10 ans avant le plan informatique qui reste dans les mémoires, 10 ans avant ce plan, le ministère de l'Éducation nationale avait lancé plusieurs plans successifs d'enseignement de l'informatique à l'école, de pénétration de l'informatique dans l'enseignement secondaire. Ça avait bien marché, opération 58 et opération 100 lycées, etc. Ils avaient fait dans l'ordre, en commençant à former les formateurs avant d'introduire des ordinateurs dans les écoles. Et ensuite, on bascule dans une logique totalement politique quand Mitterrand arrive et décide que tout ce qui s'est fait avant est nul, est non avenu. Et donc, on met tout ça au placard, on oublie, on arrête, et 2 ans après, on se rend compte que ce serait bien d'afficher l'informatique à l'école, donc on voit grand, et c'est le plan IPT qui ne tient aucun compte de 10 ans d'expérience accumulée derrière.
Là, on a un problème de chronologie du politique, qui n'est pas la chronologie de ces grandes institutions et de la pénétration des savoirs et savoir-faire dans ces grandes institutions. Simplement, c'est extrêmement compliqué. C'est un vice-président d'un établissement supérieur qui vous le dit. C'est très compliqué. Si vous avez envie de faire autre chose, moi, j'aurais sûrement pas la carrière de Cédric Pau. Vous installez des choses qui ne sont pas visibles. Parce que c'est ça qui est solide, sur lesquelles on peut bâtir. Deux remarques. Avoir des enseignants bien formés en informatique dans une époque où on fait reculer le niveau de recrutement des enseignants du second degré à la troisième année de licence, alors que le recrutement était positif. Master 2. Je n'y crois pas. Ils vont à se nourrir beaucoup plus facilement à l'extérieur de l'éducation nationale. Ça, ce sont des conditions très concrètes qu'on ne pourra pas recruter, puisqu'on commence à avoir du mal même à recruter dans les anciennes. Deuxième remarque, il y a quelque chose entre la maîtrise de l'algorithmie, de la programmation, de quelqu'un qui devient un professionnel de l'informatique et la boulangère de Brighton qui s'est à peu près utilisée et qui nous manque souvent. C'est la culture de l'informatique chez des gens qui n'en font pas leur métier, chez les décideurs, chez les hommes de médias. On a un déficit de culture scientifique et technique plus globalement. Et je pense qu'il ne faut pas trop polariser le débat entre ceux qui arriveront à s'élever, à faire voilà, de l'informatique en tant que science, et puis les autres, les damnés, qui vont continuer avec des stylos optiques, comme on le faisait à l'époque du plan informatique pour tous. On a vraiment un enjeu de culture scientifique et technique également à faire passer aux gens qui ne sauront pas faire, qui comprennent quel est l'intérêt de cette technique. De prendre des décisions, par exemple stratégiques, on n'aura pas de faire. Il faut savoir à peu près quelles sont les contraintes de la discipline pour pouvoir s'orienter. Ça, c'est très important.
Professeur universitaire à la Sorbonne va nous répondre si
les jeunes... L'enseignant à l'Institut de formation des enseignants également, parce que moi, j'enseigne aussi pour former les futurs profs, va donner quelques éléments de réponse. En fait, les professions ont des représentations, c'est très dur de les faire changer. On se rend pas compte à
le
quel
geek derrière son écran
exactement qui a du mal avec les femmes voilà qui est bah oui parce que c'est un peu voilà le vaincu de la compétition sexuelle à l'adolescence qui se tourne vers les ordinateurs parce que il y a que eux qui l'arrivent à comprendre bon alors qu'est-ce qu'on a comme levier d'abord on a des leviers de comparaison internationaux qui sont extrêmement intéressants il y a quand même des sociétés aujourd'hui dans le monde où l'informatique est une science qui est pratiquée majoritairement par des femmes le paradis malaisien où on a plus de femmes qui se dirigent vers les STEM en général, donc les études scientifiques, mais massivement vers l'informatique. Idem aux Émirats Arabes Unis, que je connais bien parce que j'y enseigne, on a une annexe de la Sorbonne là-bas, on a plus de jeunes femmes qui vont vers l'informatique que de jeunes hommes. Et alors pourquoi, quand on creuse un peu, ça montre la puissance des représentations, que dans un pays où la femme a comme objectif d'être une bonne épouse, de continuer à régner sur le domestique, mais dans le même temps de commencer à travailler, l'informatique est vue comme une profession qui lui permet de concilier les deux. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on trouve ça rétrograde ou pas. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a une représentation complètement opposée à la nôtre en Occident de ce qu'est l'informaticien, puisqu'en l'occurrence, c'est une informaticienne. Donc, il faut qu'on travaille là-dessus, et je pense qu'on travaille mollement sur les représentations. On travaille mollement sur les représentations, sur l'égalité homme-femme. On travaille mollement l'informatique, on a quand même beaucoup de mal à la valoriser. D'accord avec vous, c'est quelque chose qu'il faudrait beaucoup plus investir. Les solutions. Mais en tout cas, ça n'est pas lié à l'informatique en elle-même. Ça pourrait être désirable.
Je rajouterais que j'étais informaticien et passionné de jeux vidéo. Donc j'avais vraiment toutes les cartes en main pour être, et je m'en suis pas trop mal sorti. J'arrive à m'exprimer en public. Je suis marié, j'ai deux enfants, donc voilà, j'ai à peu près réussi ma vie. Donc oui, je suis assez d'accord qu'il faut tordre le cou à ces clichés et que pour ça, on a besoin à la fois de passer du temps, de l'énergie sur la pédagogie. On a besoin d'exemples. Il faut montrer des exemples sur l'égalité homme-femme, sur le succès des femmes dans cette industrie-là, sur voilà. Et aujourd'hui, c'est comme disait Benjamin, c'est encore mou, quoi. Moi, quand je suis arrivé devant les élus de la région en leur parlant de jeux vidéo, de divertissement digital, etc., il y en a beaucoup qui n'ont même pas compris pourquoi ils me recevaient. En disant voilà vous qui enfermez nos enfants dans leur chambre qui les mettent en marche de la société qui les déscolarisent etc alors que toutes les études du monde prouvent que c'est le contraire bien sûr les excès existent et c'est souvent ça qu'on met en vitrine mais des études de recherche en sociologie montre très clairement que quand on joue aux jeux vidéo aujourd'hui et quand on joue de manière compétitive aux jeux vidéo en plus, on réussit sensiblement mieux dans les études et sensiblement mieux en société. C'est la preuve que quand on fait de la pédagogie sur l'image qu'on a des usages ou des profils ou des professions et que l'on met en lumière les exemples positifs plutôt que les dérives minoritaires, ben souvent ça marche. On peut faire passer des messages.
Sur l'enseignement de l'informatique à des jeunes enfants, ou à des enfants d'ailleurs pas forcément très jeunes, quelque chose moi qui me saute aux yeux et qu'on retrouve à la fois dans l'école et dans le milieu associatif, c'est la volonté de masquer les difficultés lorsqu'on leur annonce ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'escroquerie. C'est-à-dire, vous allez voir, l'informatique c'est fun. Si vous voulez progresser, c'est pas fun. Et d'ailleurs, on a des gens qui réussissent quand même le tour de force de nous dire sur d'autres disciplines que c'est la même chose. entendu des collègues allemands dire « apprendre l'allemand, c'est fun ». Ben non, c'est pas fun. Et en fait, ça n'a pas à être fun ou pas. Et si on a envie de s'y mettre, ben, y trouver énormément de joie et énormément d'accomplissement. Donc, je pense que voilà, un collectif qui essaye de sensibiliser aux usages, n'escroquez pas les plus jeunes d'entre nous qui viendront s'initier. On peut faire plein de choses avec l'informatique, mais bon, c'est pas fun. Si on veut faire des choses, il faut s'y consacrer. Faut de l'effort et c'est ça qui est beau. Donc, c'est mon seul conseil. Et...
Ouais. Valoriser l'échec, finalement, c'est une forme de, c'est une forme d'apprentissage, en fait. Et moi, le, pour avoir, pour faire un peu de médiation avec, avec notre association, l'autre chose que moi je recommande dans, dans tout ça, c'est mixer les publics. En fait, c'est pas forcément que les jeunes doivent coder, les moins jeunes doivent apprendre à envoyer un mail. Non, il faut mêler ces publics parce que de ce melting pot va naître bien des apprentissages, bien des choses qui vont retenir beaucoup plus les uns et les autres que simplement formater les jeunes à coder et les moins jeunes à savoir envoyer un SMS quoi. Je pense que c'est très intéressant et nous on le fait par le jeu parce que nous on est un peu biaisé, on fait tout par le prisme du jeu et notamment une des choses qu'on a mis en place c'est des compétitions intergénérationnelles de jeux pour faire se rencontrer ces publics-là où c'est des duos entre un jeune et un senior qui doivent compéter ensemble, réaliser une compétition ensemble contre d'autres dans la pratique de jeux vidéo accessibles. Et encore une fois, c'est pour montrer, un, que les publics peuvent se croiser et peuvent s'entraider, peuvent s'apprendre des choses, peuvent échanger, que les usages numériques comme le jeu sont pas réservés à des publics et que ben on peut apprendre de soi et des autres et on peut faire communauté autour de choses qui semblent être pas du tout à notre portée.
Eh bien, merci donc à Vincent Marty, Pierre Mounier-Kuhn et Benjamin Thierry pour cet échange fructueux et fort intéressant qui revenait sur ces 30 glorieuses sur le numérique et l'informatique français. Merci à vous trois.
C'est la fin de cette captation. Merci à Loir-et-Cher Tech de nous avoir proposé la modération de ce rendez-vous. À 18h, c'est la Rock Setlist avec l'ami Christophe et sa bande. Restez à l'écoute des programmes de Studio Zef. Bonne soirée.